Première partie.
Tout commença par un simple coup de fil le lendemain de mon 40e anniversaire. Lorsque la sonnerie du téléphone retentit dans l'appartement peu avant midi, le 26 août 1998, je gisais encore dans mon lit, un brin éméché. Je n'eus ni la force ni la présence d'esprit de décrocher, et ce n'est qu'au milieu de l'après-midi que je découvris sur mon répondeur le message qu'allait bouleverser ma vie. J'étais rentré chez moi à l'aube. Mon agent et ami Gudbert Saint-Louis avait organisé la veille une fête surprise en mon honneur. Toutefois, comme il savait que je détestais les surprises et encore plus les anniversaires, il avait cru bon de me mettre dans la confidence et de me faire répéter mon arrivée. « Sois un peu en retard, ça sera plus crédible. Et par pitié, David, ne fais pas ta drôle de tête. »«
Quelle drôle de tête ? » ?»«
Tu sais bien. Celle qui donne à tout le monde l'impression que tu as quelque chose à te reprocher. » Il avait mimé une grimace contrite. On dirait Nixon en train de se faire tirer les vers du nez par David Frost. J'avais demandé au taxi de me déposer dans l'Upper East Side, à 3 rues de l'appartement de Cuthbert, pour marcher un peu et me laisser le temps de me conditionner psychologiquement. Comme il me l'avait expliqué, j'étais censé venir dîner chez lui en compagnie de quelques amis pour une soirée informelle. J'arrivais donc en tenue décontractée, l'air dégagé, avec une bouteille Rich Vineyards Montebello à $200. Cuthbert n'étant satisfait que lorsque j'apportais du vin californien. En franchissant la porte, je dus feindre la surprise quand une trentaine de convives entonna « Happy Birthday !» dans des trilles désagréables, sans pouvoir chasser de mon esprit l'image de Richard Nixon qui, enfoncé dans un fauteuil beigeasse, trop bas pour lui, déclarait à la caméra « J'ai commis des erreurs quelquefois horribles et indignes d'un président. » Au milieu de la chorale réjouie, j'aperçus notre hôte, un verre à la main. Il levait discrètement le pouce dans ma direction pour me faire comprendre que je jouais mon rôle à merveille. Ou peut-être voulait-il simplement me faire plaisir. À une époque pas si lointaine, rien ne me grisait davantage que de me retrouver l'objet de toute l'attention, de goûter à la satisfaction d'être quelqu'un d'important, dont la simple apparition est capable de changer le centre de gravité d'une pièce. Ce soir-là, je n'éprouvais que de la gêne et le sentiment désagréable d'être un usurpateur qui s'étonne encore qu'on lui témoigne tant d'égards. Sans me laisser le temps de placer un mot, Cuthbert me donna une tape virile dans le dos en prenant ma bouteille. « Joyeux anniversaire, mon grand ! Hum ! Excellent choix !» Je subis sans broncher les remarques convenues et peu amusantes de quelques invités sur le grand saut dans la quarantaine et les ravages inexorables du temps. 40 ans. Lorsqu'il m'arrivait de penser à mon âge, c'est-à-dire de plus en plus souvent, je prenais conscience d'avoir déjà vécu la moitié de ma vie sans rien avoir accompli d'extraordinaire. Je songeais que Mozart était mort à 35 ans, en laissant derrière lui la bagatelle de 626 œuvres. J'avais poussé le vice jusqu'à vérifier un jour l'information dans le catalogue Köchel. Cuthbert, lui, avait franchi la barre fatidique des 50 ans, mais son optimisme inébranlable paraissait le mettre à l'abri du temps. Même le pontage coronarien qu'il avait subi 2 ans plus tôt n'y avait rien changé. Il buvait trop, fumait trop, avait depuis longtemps dépassé la limite de surcharge pondérale, ce qui ne l'empêchait visiblement pas de se sentir épanoui dans la force de l'âge. Selon ses propres dires, il plaisait encore davantage aux femmes à mesure que ses cheveux grisonnaient et qu'il prenait du ventre. On aurait pu croire à de la forfanterie, mais j'étais toujours médusé par le pouvoir d'attraction qu'il exerçait sur la gente féminine, même lorsque celle-ci ignorait le montant de son compte en banque. Par sa taille, l'appartement de Cuthbert était indécent. Il comprenait 6 chambres, 3 salles de bain, 1 salle de billard, 1 bureau dans lequel il ne mettait jamais les pieds, et 1 salon 2 fois plus grand que la surface moyenne de n'importe quel logement new-yorkais. Quoique son boulot d'agent lui rapportât gros, il devait l'essentiel de sa fortune à l'héritage de son père, un richissime industriel de Chicago qui avait fait une brève carrière chez les Républicains dans les années 80, avant qu'une aventure avec une stripteaseuse en âge d'être sa fille ne le pousse à la démission et au divorce. Je cherchais du regard des têtes familières. Le plus bizarre dans cette fête, ma fête, c'était que je n'y connaissais presque personne. J'avais l'impression d'être un gosse qui débarque dans une nouvelle école et se retrouve tout penaud dans la cour de récréation.